Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Pour la première fois dans l'histoire, des chrétiens de confessions différentes vont prier ensemble dans une semaine au Saint-Sépulcre. C'est la grande nouveauté du tout prochain voyage du pape François en Terre Sainte. Vous entendrez le président du Conseil pour l'unité des chrétiens. En Inde, l'Église ne se laissera pas intimider par les agissements des groupuscules fanatiques. Malgré l'arrivée au pouvoir d'un parti nationaliste, elle entend continuer sa mission. Elle prie pour le nouvel exécutif. Elle soutient la démocratie, le pluralisme, le respect des droits de tous et la laïcité politique. Seul roi de l'histoire de France à avoir été canonisé, Saint Louis reste dans la mémoire collective comme un roi bon et juste qui a œuvré notamment pour la mise en place d'un système judiciaire très moderne pour l'époque qui donnait aux plus pauvres une chance d'être écouté par les agents de l'État. Le diocèse de Paris lui a rendu hommage et puis ne manquez pas, en fin d'émission, nos rendez-vous hebdomadaires avec les livres pour Dieu et le commentaire de l'Évangile. Le voyage du pape François en Terre Sainte, dans une semaine tout juste, sera marqué notamment par une célébration œcuménique au Saint-Sépulcre. Le souverain pontife l'a clairement indiqué, l'objectif principal de son déplacement est de commémorer le cinquantenaire des retrouvailles historiques entre Paul VI et le patriarche œcuménique de Constantinople, Athénagoras. Le cardinal Corre, président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, fera bien sûr partie de la délégation qui accompagnera le pape François dans ce voyage. On l'écoute.
Si nous avons écouté tout le message et toutes les homélies du Saint-Père, c'est bien sûr cette visite veut approfondir les relations fraternelles et amicales entre le patriarche œcuménique du Constantinople et le Saint-Père François et la rencontre des autres réalités ecclésiales qui sont en Terre Sainte.
Votre conseil pontifical est aussi responsable pour le dialogue avec les Juifs. Quelle est la signification aussi de ce voyage dans le dialogue entre catholiques et juifs?
Les rencontres avec les Juifs ont deux niveaux. Premièrement, une rencontre avec les autorités de l'État d'Israël, avec le président, le premier ministre et toutes les autorités de l'État. Ça veut dire qu'il est nécessaire et important d'approfondir les relations politiques et diplomatiques entre le Saint-Siège et l'État d'Israël. Et à l'autre côté, c'est la rencontre avec les deux grands rabbins de Jérusalem. Et ici, je peux commémorer que notre commission pour les rapports religieux avec le judaïsme a déjà un grand dialogue avec les deux grands rabbinats d'Israël. Ça veut dire que aussi c'est important d'approfondir ces relations fraternelles avec les deux grands rabbins en Jérusalem.
Le cardinal Corre, président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, interrogé par notre confrère de la rédaction allemande, Mario Galgano. Le sommet de ce voyage atypique sera donc la prière publique historique sur le lieu de la résurrection du Christ. Autre temps fort, le successeur de Pierre célébrera avec les évêques catholiques de la région une messe au Cénacle, un site toujours controversé. Pas de visite en revanche en Galilée. Enfin, le Saint-Père se déplacera à bord d'une Jeep, aucune voiture blindée n'est prévue. 350 malades sur leur fauteuil roulant et quelques 5000 volontaires de la souffrance ont accueilli le pape François dans la salle Paul VI ce samedi en fin de matinée. Il participait à un pèlerinage organisé par une association italienne fondée par un apôtre des malades, le bienheureux Luigi Novarese, mort en 1984. Ce prêtre italien, qui avait fait lui-même l'expérience de la maladie et de la guérison, s'était forcé de renouveler la pastorale des malades. Sa recherche aboutit à la fondation des ouvriers silencieux de la Croix et du Centre des volontaires de la souffrance, reçu ce samedi au Vatican. Et c'est bien sûr à la souffrance que le souverain pontife a consacré son discours. Xavier Sartre.
Attention, a prévenu le pape, heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés, ne veut pas dire qu'une condition pesante et handicapante soit heureuse. Non, la souffrance n'est pas une valeur en soi, mais une réalité que Jésus nous apprend à vivre d'une manière juste. Il y a donc deux attitudes erronées à éviter, a expliqué le pape. D'une part, celui de vivre la douleur passivement, se laissant aller par inertie et résignation. Il y a aussi d'autre part, la rébellion et le refus de cette douleur. Entre ces deux extrêmes, il y a ce que Jésus nous a appris. Vivre la douleur en acceptant la réalité de la vie avec confiance et espoir, en misant sur l'amour qui transforme toute chose. Cet enseignement du Christ, dont Luigi Novarese l'a repris à son compte. Il a appris aux malades et aux enfants à valoriser leur souffrance au sein d'une action apostolique portée en avant avec foi et amour pour les autres. Les malades doivent se sentir les auteurs de leur propre apostolat, a-t-il déclaré. Une personne malade, handicapée, peut devenir ainsi soutien et lumière pour les autres personnes souffrantes, transformant ainsi l'environnement dans lequel il vit. C'est en ce sens que le charisme propre aux silencieux ouvriers de la croix est un don pour l'Église.
La France et particulièrement la communauté catholique de Paris ont commémoré ce samedi le 8e centenaire de la naissance de Saint-Louis, roi de France de 1226 à 1270 sous le nom de Louis IX. Une procession est partie en début d'après-midi de la paroisse Sainte-Eugène-Sainte-Cécile pour rejoindre la cathédrale Notre-Dame de Paris où exceptionnellement s'est tenue une ostension conjointe des reliques de la Passion du Christ et de celle de Saint-Louis lors d'une cérémonie présidée par l'évêque auxiliaire de Paris, Monseigneur Renaud de Dinchin. Les reliques de Saint-Louis sont désormais conservées en l'église Saint-Louis en Lille. Le père Patrick Faure, curé de la paroisse Sainte-Eugène-Sainte-Cécile à Paris, rappelle que les dirigeants actuels peuvent encore s'inspirer de la modernité de Saint-Louis.
Il y a une double dimension de Saint-Louis qui traverse les siècles, c'est la justice et la paix. Ça, c'est une grande donnée de Saint-Louis, qui est un saint laïc au Moyen-Âge, ce qui est quand même relativement exceptionnel. La justice, parce que Saint-Louis a véritablement été un roi très attaché à la justice. Il a voulu la justice dans son royaume. C'est quand même lui qui, même pour préparer la première croisade de 1248, a institué les enquêteurs royaux, qui devait démasquer les abus ou les injustices, justement, commis par ce que nous appellerions aujourd'hui les fonctionnaires de l'État. Et au retour de la première croisade, qui d'ailleurs a été un échec militaire, Saint-Louis a donné ses grandes ordonnances, comme on les appelle, qui ont voulu véritablement mettre encore plus l'accent sur le redressement judiciaire dans le royaume. Et Saint-Louis lui-même s'est fait champion de cette justice. C'est quand même lui qui a défendu la présomption d'innocence, par exemple, le droit des femmes dans les questions d'héritage, et surtout qui a voulu la même justice pour tous, les puissants et les misérables. Donc Louis est vraiment un roi qui est très attaché à la justice. C'est l'image que le 19e siècle a popularisée, Duchesne de Vincennes. Et sinon, lié à la justice, il y a bien sûr la paix. Alors la paix que Saint-Louis a mise entre les sujets eux-mêmes dans son royaume, mais aussi avec les étrangers, entre les Bourguignons, les Lorrains, la France et l'Angleterre, l'Aragon et la France. Saint-Louis a été un chef spirituel et moral pour toute la chrétienté.
Est-ce qu'à l'occasion de ce 800e anniversaire, vous sentez une dévotion des Parisiens pour Saint-Louis, des gens qui le redécouvrent? Est-ce que vous sentez, par exemple, chez vos paroissiens, un intérêt renouvelé pour cette figure de Saint-Louis?
Alors, chez les paroissiens, nous l'espérons, Saint-Louis reste quand même un saint populaire dans l'esprit des Français. C'est comme je le disais, l'image du 19e siècle et de Saint-Louis sur son chêne, rendu célèbre par les manuels d'histoire du 19e siècle. Donc Saint-Louis reste le roi bon et juste. Mais on a toujours besoin de rappeler les grandes figures qui ont construit notre histoire et notre patrimoine au moment où certains peuvent craindre que justement on les laisse un peu disparaître.
Est-ce que Saint-Louis est connu en dehors des frontières de la France?
Ah ben bien sûr. Peut-être même mieux qu'en France même. Saint-Louis a des villes à son nom, n'oubliez pas, aux États-Unis, bien sûr. En Europe et hors de l'Europe également. On ne peut pas faire le tour de tous les pays qui le reconnaissent et qui reconnaissent sa valeur. Mais à partir du moment où, au Moyen-Âge, il est déjà, comme je le disais, ce chef moral de la chrétienté qui sert d'arbitre à toute la chrétienté que l'on vient trouver lorsque le roi d'Angleterre a des difficultés avec ses propres barons et que c'est au roi de France qu'on demande d'arbitrer les conflits, il a marqué non seulement son temps, mais au-delà des pays d'Europe et en dehors de l'Europe aussi. C'est l'époque où l'Empire mongol en Asie représente dans la conscience européenne une menace immense ou peut-être une chance, on ne sait pas. Louis envoie une ambassade, il est en lien avec eux. Et bien entendu, c'est l'époque des croisades où les Européens se manifestent en Terre Sainte. Donc autant de raisons qui font que Louis est bien entendu connu au-delà des seules frontières de la France.
Le père Patrick Faure, interrogé par Cyprien Viette. Quelques 10 000 personnes venues d'une cinquantaine de pays sont attendues ce dimanche à la 23e fête des peuples à Saint-Jean-de-Latran, cathédrale de Rome, sur le thème « Une richesse à accueillir ». Ce rassemblement vise à célébrer l'importance l'importance ecclésiale et sociale de la présence des communautés immigrées dans le diocèse de Rome. La journée sera rythmée par des conférences et des débats sur le thème de l'immigration qui alterneront avec des moments culturels, ludiques ou festifs, dont un spectacle folklorique multiethnique et des espaces de dégustation. La célébration eucharistique à midi dans la basilique sera présidée par le cardinal ghanéen Peter Turkson, président du Conseil pontifical Justice et Paix. Les évêques indiens veulent faire confiance au nouveau gouvernement et continuer à croire dans le pluralisme historique de l'Inde. Les résultats du marathon électoral qui a abouti au triomphe du parti nationaliste BJP n'inquiètent pas l'Église catholique. Ce séisme politique, qui relègue dans l'opposition la dynastie Nehru-Gandhi et leur parti du Congrès, a pourtant porté au pouvoir un leader, Narendra Modi, favorable au milieu d'affaires mais aussi connu pour son engagement militant dans le nationalisme hindou depuis son plus jeune âge. Olivier Bonnel.
Une grande preuve de démocratie, c'est en ces termes que le secrétaire de la conférence épiscopale qualifie ces élections législatives qui ont le mérite, selon lui, d'avoir abouti à un gouvernement fort qui pourra faire entrer l'Inde dans une nouvelle phase de développement économique et de progrès. Au Madhya Pradesh, une région considérée comme le laboratoire de l'extrémisme hindou, un évêque affiche lui aussi une totale sérénité. Aucun gouvernement ne pourra, selon lui, porter atteinte au patrimoine indien composé de cultures, traditions et religions très anciennes, dont le christianisme. Dans cet État, gouverné par le BJP, les chrétiens ont de bonnes relations avec les autorités locales et de nombreux jeunes hindous fréquentent les écoles catholiques. Les extrémistes antichrétiens sont une minorité dans une nation démocratique et tolérante. Même ton au Kerala, berceau du christianisme indien. Un évêque souligne que le pluralisme fait partie intégrante de la nation indienne. Il pense que le nouveau gouvernement ne voudra pas briser cette harmonie. Du côté du Conseil des Églises chrétiennes, on appelle plus explicitement le nouveau gouvernement à lutter contre les actions violentes des groupes extrémistes hindous qui propagent les divisions. Les chrétiens préviennent que leur rhétorique risque de faire dévier la nation de son parcours de croissance et de développement.
Aux Philippines, l'Église réclame justice pour les agriculteurs et les activistes assassinés ces derniers mois dans des circonstances mystérieuses, avec en toile de fond la réforme agraire toujours à venir et les controverses au sujet des propriétés agricoles. Les évêques demandent aux autorités de mener une enquête approfondie et de retrouver non seulement les exécutants, mais aussi les mandataires. Selon l'Église catholique, les agriculteurs qui se battent pour défendre leurs terres contre les grands propriétaires terriens font l'objet d'intimidations. Il faut accélérer la réforme attendue et résoudre au plus vite les conflits liés à la terre. Avant-dernier volet de ce magazine, « Montre-toi vivant » de Léonard Appel. C'est le livre pour Dieu que nous vous proposons cette semaine. Je vous laisse en compagnie de sœur Catherine Aubin.
Christiane Singer continue son dialogue avec nous sur la vie par un livre. Un livre écrit par un de ses amis, Léonard Appel. Nous lui avons demandé si son message central était bien celui-ci, « Montre-toi vivant ».
Oui, je pense qu'elle a incarné un appel à devenir vivant. Comme elle dit, chaque jour, donner à la vie la chance de se renouveler. Et elle a donné un visage à cette injonction du Deutéronome. J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie et tu vivras. C'est ça le plus fort que j'ai entendu. Elle ne voulait pas créer un mouvement ou faire quelque chose d'original, mais elle voulait simplement pointer une présence plus grande qu'elle.
Vous l'avez bien connue, Léonard Appel?
Oui, parce que je l'avais entendu à une conférence sur son livre qui s'appelait « Du bon usage des crises ». Et ce qui m'avait frappé, c'est qu'elle ne cachait pas qu'elle était enfant de la guerre. Son père était juif et ils avaient dû fuir. Elle est née à Marseille au début de la guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Donc elle ne cachait pas le désespoir qui l'habitait à cause de cette expérience de la précarité de la vie. Mais j'ai été frappé par le retournement de ce désespoir en vénération de la vie. C'est vrai que nous sommes tous un peu tentés par la négativité et le repli sur nous-mêmes, le cynisme, etc. Elle fait un appel à ouvrir les fenêtres, à tenir le fil de la merveille, comme elle disait. Un peu comme disait Mandela, il s'agit de révéler la gloire de Dieu dans l'homme.
Et justement, dans la deuxième partie de votre livre qui s'appelle « En dialogue », vous commencez cette deuxième partie par l'auto-louange. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
L'auto-louange, ce n'est pas de l'égoïsme, hein, ce n'est pas du narcissisme, mais c'est valoriser au fond le jeu profond, le jeu de notre vocation, et qui est une expression de la fierté de l'homme, de la dignité de l'homme.
Et oui, est-ce que c'est une façon aussi pour elle de réparer le monde?
Ah oui, je crois, parce que de ne pas rester en dessous du niveau quotidien, mais de, comme elle disait, de tenir le fil de la merveille. Mais ce n'est pas une réparation du monde. En général, c'est la roulotte qui habite notre errance, comme elle disait, la cabane qui nous protège de la pluie.
Elle insiste aussi beaucoup, et vous insistez dans ce livre, sur quelque chose qui revient toujours: la vie est dans le présent.
C'est, au fond, elle disait, il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir. Tout se joue maintenant. Elle nous alertait, elle nous mettait en état d'alerte. C'est maintenant qu'il faut vivre, c'est maintenant qu'il faut décider.
Livre pour Dieu, une rubrique hebdomadaire signée Catherine Aubin. Et c'est l'heure de retrouver le père Pascal Montavi pour le commentaire de l'évangile du 18 mai, 5e dimanche de Pâques. C'est l'évangile selon saint Jean, chapitre 14, versets 1 à 12. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. »
L'évangile de ce jour, pris de saint Jean, est un extrait du discours de Jésus prononcé avant d'entrer dans sa Pâque. Ces paroles ont dû paraître bien mystérieuses aux oreilles des disciples qui n'avaient pas encore vécu les événements de la passion et de la résurrection de Jésus. Thomas et Philippe posent des questions. En premier lieu, Jésus commence par affirmer qu'il y a de nombreuses demeures dans la maison de son Père. Mais auparavant, il doit d'abord aller nous préparer une place, puis il viendra nous chercher pour nous prendre avec lui. Il y a là un véritable condensé de notre foi. Les nombreuses demeures dans la maison du Père témoignent de l'universalité du salut. C'est le désir de Dieu que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais cette place, c'est Jésus qui nous la prépare, lui, l'unique médiateur, le seul par qui nous puissions avoir accès à la vie éternelle. Tôt ou tard, c'est par le Christ que nous passons pour avoir accès au Père. Visiblement, Thomas ne saisit pas la portée de ces paroles. Il demande « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus répond « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Affirmer à notre époque qu'il y a une vérité, que tout n'est pas égal, est un discours qui n'est pas facilement reçu. N'entendons-nous pas souvent « Toutes les religions se valent, toutes les religions ont le même Dieu. » Bien sûr, il y a un seul Dieu, et celui, quel qu'il soit, qui adresse sa prière à Dieu, s'adresse donc à l'unique Seigneur. Mais quelle identité je donne à ce Dieu que je prie? Est-il lointain, inaccessible, ou bien incarné et miséricordieux? Demeure-t-il indifférent à la vie des hommes, ou bien est-il prêt à donner sa vie par amour? Notre foi enseigne une vérité, celle que Jésus nous a donnée. Mais Jésus dit aussi qu'il est la vie. Cette vie, nous pouvons en avoir un avant-goût dès ici-bas. Celui qui suit le Christ reçoit dès ici-bas un surcroît de vie et dans l'éternité, une vie bienheureuse. Ensuite, Philippe pose une question. « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus répondra « Qui m'a vu a vu le Père. » Nous entrons là dans le mystère de la Trinité. Le Père, le Fils et l'Esprit-Saint sont trois personnes distinctes dans la Trinité. Et pourtant, qui voit le Fils, voit le Père. Par le Fils, nous avons accès à la révélation du Père. Nous découvrons que le Père envoie son Fils, non pas pour juger, mais pour sauver. La volonté du Père est donc une volonté de miséricorde. Prions ce jour pour remettre au cœur de nos vies Jésus, lui qui est le chemin, la vérité et la vie.
Et c'est sur ce commentaire de l'Évangile que s'achève notre émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous invite à nous retrouver également sur Internet, radiovaticana.va, ainsi que sur Facebook, Radio Vatican, en français. Bon dimanche à tous.